Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business.
90 minutes business, bonjour à tous et bienvenue, il est midi sur BFM Business, bienvenue dans l'émission d'actu et de conseil avec toute l'équipe. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans l'actualité de ce vendredi. À la une, bien sûr, ce sont ces marchés très optimistes. L'inflation américaine et française est à la baisse, un ralentissement qui pourrait n'être que de courte durée en France. On parlera également de la brusque baisse des prix des voitures Tesla, cure globale de modestie pour le constructeur américain. Et le coup d'envoi de la guerre des prix, on va en parler dans notre focus. Et puis avec notre invitée Marine Raffray, agroéconomiste à Chambre d'Agriculture France, on poursuit notre fil rouge des négociations commerciales. Bien d'autres choses évidemment d'ici 13h. Notre débat, on reviendra sur l'ouverture à la concurrence des transports en commun. Quel est le bien fondé de ce processus? On répond à vos questions et on vous donne la parole dans 90 minutes business avec vous. Lorraine Goumeau est là dès 12h55 jusqu'à 13h30. Bienvenue à tous.
90 minutes business, le journal.
L'inflation en 2022 a dépassé les 5%, chiffre définitif donné par l'INSEE ce matin, contre un peu plus d'1,5% en 2021. Toutefois, les prix ont globalement baissé le mois de décembre, 5,9% contre 6,2% en novembre. Ralentissement également aux États-Unis, 6,5%, son plus bas niveau depuis octobre 2021. Signaux accueillis avec enthousiasme par les marchés. On verra ça juste après midi et demi avec Antoine Larigaud. L'augmentation globale des prix se fait particulièrement ressentir dans les rayons, dans la grande distribution. C'est ce que constate le président du groupement des mousquetaires, Didier Duhaupan.
Une inflation importante en fin d'année dernière, vous savez, 12 et quelques pourcents d'augmentation des prix. Les consommateurs, nos concitoyens, ont un budget à dépenser et n'ont pas 12% de plus à dépenser. Donc ils arbitrent. Ils achètent moins d'articles, moins de produits. Ils descendent en gamme parfois sur certains produits ou ils se privent.
Les Français, les consommateurs qui se privent, qui arbitrent, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on doit s'attendre également à un dérapage des prix? C'est prévu au mois de mars prochain.
Oui, ce qui va se passer, c'est que on va sortir progressivement de la période où l'inflation était artificiellement contenue par des mesures de subventions, de boucliers. Donc, la France va retrouver finalement les niveaux de prix de ses partenaires européens. Simplement, elle aura reporté dans le temps les conséquences de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières alimentaires. Il y a une chose qui néanmoins va jouer positivement, c'est que l'euro est en train de s'apprécier. Et je rappelle quand même que on a pu avoir un prix du baril de pétrole à $145 le baril dans les années 2000, au milieu des années 2000, avec un prix à la pompe qui était beaucoup moins important que maintenant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'euro valait $1.60. Là, il est à 1.07. Il était descendu à moins de $1 il y a quelques semaines. Donc là, il y a un élément qui va quand même contrarier cette tendance naturelle qui va être de digérer la fin des subventions. Globalement, néanmoins, vous l'aviez dit dans l'introduction, Tesla baisse ses prix. Il y a quand même des économistes qui sont en train de nous expliquer que on va assister à des baisses de prix, y compris dans des domaines dans lesquels on s'entend pas. Le prix du blé sur le marché international est en train de baisser. Et donc, peut-être que les pâtes alimentaires vont sinon baisser, en tout cas se stabiliser.
Ce dérapage des prix aura lieu sans doute au mois de mars, après la date butoir des négociations commerciales. Que faut-il en attendre dans cette période de très forte tension? On verra ça avec notre invitée dans 10 minutes, Marine Raffray, économiste à la chambre Agriculture France. Pour regarder le bon côté des choses, l'inflation permet au livret A de rapporter un peu plus. Le taux du placement préféré des Français doit passer de 2 à plus de 3% le mois prochain. Augmentation mécanique qui doit être précisée cet après-midi par le gouvernement. L'exécutif qui prépare sa riposte au plan anti-inflation américain, Emmanuel Macron doit déjeuner ce midi avec des grands patrons français pour évoquer la situation économique européenne et les inquiétudes vis-à-vis du protectionnisme engagé par Joe Biden. Jusqu'où chutera la tech? Après Samsung, c'est le géant des puces TSMC qui se montre pessimiste. Les ventes de produits électroniques continuent leur dégringolade sur fond de ralentissement de l'économie mondiale et de sortie de la pandémie. Simon Tenenbaum.
C'est une première depuis 4 ans pour le leader mondial des puces. TSMC anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. La demande est encore plus faible qu'attendue il y a 3 mois, dit le groupe. Comme quoi, le point bas n'est pas encore atteint pour le secteur. Et ce, alors que les ventes de PC ont déjà chuté de 30% au quatrième trimestre. Il faut remonter aux années 90 pour retrouver un tel décrochage. Après l'emballement de la pandémie, le déséquilibre entre l'offre et la demande est à un niveau jamais vu depuis 13 ans, affirme le patron du fabricant américain de puces Micron. Les stocks sont donc à des niveaux élevés, le prix des composants chute, les promos se multiplient sur les produits électroniques. La plupart des fabricants, s'ils croient toujours à une croissance de long terme, ont revu à la baisse leur plan d'investissement. Le rebond pourrait s'amorcer au deuxième semestre cette année, espère Samsung, mais la croissance ne sera de retour qu'en 2024, avertissent les experts.
Un mot sur les exportations chinoises, elles sont à la baisse, en déclin en décembre avec le repli de la demande mondiale, moins 10% sur un an, le pire recul depuis février 2020. Liquidation judiciaire prononcée pour l'entreprise Tout-Pargel, devenue place du marché. Près de 2000 emplois sont supprimés, le tribunal de commerce de Lyon vient de prendre sa décision sur l'entreprise spécialisée dans la livraison de repas surgelés à domicile. Cette issue était attendue, aucun repreneur ne s'était manifesté. Pilote de ligne, fonction publique, policier, transport, tous les syndicats appellent à la mobilisation jeudi prochain contre la réforme des retraites. Chez les énergéticiens, les grévistes parlent d'éventuelles coupures d'électricité ciblées. Si les salariés le décident, ce sera la France à l'arrêt, a lancé le leader de la CGT, Philippe Martinez, estime sur BFM TV que la première ministre met le feu avec ce projet, Jean-Marc Daniel. On nous prépare au pire pour jeudi prochain, c'est dans 6 jours.
Oui, ça va être un des grands tests pour les syndicats. C'est-à-dire que leur enjeu, c'est à la fois le suivi, le nombre de grévistes et surtout la capacité de nuisance de ces grévistes. Il fut une époque où, quand ils étaient beaucoup plus représentatifs, ce qu'on mesurait, c'était le nombre de gens qui défilaient entre la République, la Bastille, la Nation, enfin dans cette partie-là de Paris. Maintenant, on est dans une situation où ils ont bien senti qu'ils n'auraient pas cette mobilisation de toute façon qu'ils pouvaient espérer. Et la mobilisation des années 60-70, donc c'est en capacité de nuisance, en capacité de faire pression sur l'opinion publique pour qu'elle fasse pression elle-même sur le gouvernement, qui peuvent espérer obtenir quelque chose. Bon, le gouvernement, par l'intermédiaire de son porte-parole, a eu une formule assez choque, c'est ils nous font pas peur, même pas peur. Donc c'est un peu inquiétant quand même quand on est dans cet état d'esprit d'un côté comme de l'autre.
Journée test, donc jeudi prochain. Notre focus, on en vient à cette baisse des prix du constructeur Tesla. Julien Bonnet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Concrètement, ça représente quoi comme rabais?
Écoutez, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que sur une Model 3, donc la berline, qui était à 53 500 € encore hier, elle a perdu 13 000 € avec un double effet, en fait, une baisse de prix d'abord, donc de 8 500 € le prix catalogue, qui passe donc à 44 990 €, et du coup le véhicule devient éligible au fameux bonus écologique, qui est plafonné à un prix d'achat de véhicule 47 000 €. Donc vous pouvez encore déduire 5 000 € au nouveau prix, et là vous arrivez sous les 40 000 €. Donc c'est un retour en fait à la situation qu'il y avait encore en 2019, avant justement des hausses de prix.
Cet argument par rapport aux concurrents, quel est son impact?
Ça va créer un sacré tumulte chez les concurrents. C'est toujours dur de comparer Tesla avec d'autres constructeurs, parce que soit les généralistes, ils sont bien sûr en général moins chers, mais la prestation, elle est aussi moins bonne en termes de performance, d'autonomie. On parle beaucoup sur la voiture électrique, bien sûr, de la taille de la batterie. Tesla a aussi ce plus du réseau de recharge, donc ces fameux superchargeurs qui sécurisent beaucoup les clients qui passent à l'électrique. Donc c'est sûr que si on compare par exemple à une Mégane E-Tech qui est fabriquée en France, la baisse de prix, elle rend finalement la Model 3 et presque le Model Y plus intéressant qu'une Mégane E-Tech. Et donc par rapport au constructeur premium, la différence, elle va être encore encore plus importante.
Impressionnant, moins cher qu'une Mégane. Pourquoi une telle baisse de prix, Julien ?
Bah, finalement, Tesla, ils expliquent qu'ils ont eu des gains de productivité, que la situation aussi en termes d'approvisionnement, hein, des fameux semi-conducteurs ou de certains composants qui étaient en tension, bah, elle s'améliore. Et donc, le discours, hein, c'est de dire on répercute ces gains de productivité sur nos prix catalogues pour en faire bénéficier les clients. Après, derrière, il y a peut-être aussi une stratégie commerciale, hein, d'accroître encore le leadership sur l'électrique qu'a Tesla. Tesla a toujours aussi des objectifs en termes de livraison et de production très ambitieux. Ils les ont frôlés en 2022 et on voit qu'en bourse, ça a été un peu sanctionné. Les baisses de prix en général, c'est pas aussi beaucoup apprécié des investisseurs. Donc, a priori, le mouvement, il est plutôt sur le plan des ventes et de la dynamique commerciale que sur une opération vraiment pour les investisseurs en bourse.
Merci, Julien Bonnet. Jean-Marc Daniel, en un mot.
En un mot,
c'est la guerre des prix qui est déclarée.
Oui, la concurrence, ça fonctionne. Et le grand bénéficiaire, c'est le consommateur. Et même quand on est en situation de dominer le marché, il y a ce qu'on appelle le marché contestable. Si on a peur que les concurrents réussissent à vous prendre des parts de marché, eh bien, on anticipe cette arrivée des concurrents et on fait soi-même les baisses de prix pour éviter cette montée en puissance des concurrents. Donc, vive la concurrence.
On va faire un point à Euronext à midi 10 sur BFM Business.
90 minutes business, les marchés.
Rejoindre Antoine Larigaudry. Antoine, à la mi-journée, on est en train de flirter avec les 7000 points au CAC 40.
On les a même dépassés, hein, et 7009, on est en hausse de 0,48% du côté des autres places européennes. Alors un autre cap symbolique qui a été franchi, c'est celui du DAX à Francfort, bien au-delà des 15 000 désormais, 15 108. L'Eurostoxx 50, lui, est en hausse de 0,57%. Les ingrédients, on les connaît, hein, un marché qui semble soulagé, hein, par les perspectives inflationnistes qui ont tendance quand même à s'améliorer un petit peu. Maintenant, est-ce qu'on n'achète pas un petit peu à crédit cette amélioration conjoncturelle ? On se posera la question, hein, dans quelques minutes, mais on revient sur tout un tas de secteurs qui ont peut-être pas mal souffert l'année dernière. On bénéficie aussi d'un climat beaucoup plus apaisé et ça va falloir regarder ça de près du côté des taux obligataires qui descendent, mais à grande vitesse. Sur les taux 10 ans, aussi bien européens qu'américains, on a perdu plusieurs dizaines de points de base, hein, depuis le début de la semaine. Et puis, pas oublier aussi, on parle beaucoup d'une inflation qui se calme, bah, c'est reparti du côté du pétrole. Régulièrement, doucement mais sûrement, on est au-delà des 84$, on est même quasiment à 85, hein, sur le Brent de mer du Nord à 84,81. Les plus fortes hausses du CAC 40, de la techno avec Dassault Systèmes qui gagne 2,28% à 35,74€, mais aussi des valeurs cycliques. Alstom gagne 1,6% à 25,79€, ArcelorMittal plus 1,6 à 28,46. On a Air France KLM en forte hausse, plus 6,4% à 1,51€. Du côté des baisses à signaler, le secteur auto et notamment Renault qui a signé la meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année et qui l'a subi des prises de bénéfices, moins 3%, 36,54€. Stellantis amplifie le mouvement à moins 3,81€. On est à 14,22€. Le CAC plus 0,48, 7009 points. Et l'euro au plus haut depuis le mois de mai. On est à 1,0832.
Merci Antoine Larigaudry. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc Daniel.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, vous revenez sur l'inflation. Les banques centrales semblent impuissantes face à elle, puisque qu'importe les politiques monétaires qui ont été décidées selon les pays, eh bien l'inflation recule.
Oui, l'inflation recule un peu partout. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais regardons les chiffres d'abord. Donc, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis, la France, les États-Unis, mais il y a des chiffres spectaculaires. En Argentine, 94,8% d'inflation. Vous me direz, où est le recul ? Sauf que on anticipait une inflation à trois chiffres, c'est-à-dire que les dernières prévisions anticipaient une inflation de 100%. Et le mois de décembre, par rapport au mois de novembre, on n'a connu qu'une inflation que de 5%, alors qu'on était sur des rythmes qui étaient de 8 à 10% sur les mois précédents. Vous regardez la Turquie. La Turquie affichait une inflation cet été qui était là, aux alentours, on anticipait 100% aussi. On est descendu à 95% au mois de novembre. Et là, on considère que l'inflation sur l'année, finalement, aurait été de 85%. Et donc, un peu partout, l'inflation ralentit, quelles que soient effectivement les politiques monétaires qui ont été menées. Alors, ça appelle comme commentaire de ma part, d'abord, le premier constat, c'est que les banques centrales sont impuissantes face à l'inflation, mais elles en profitent pour retrouver un niveau de taux d'intérêt qui soit un niveau de taux d'intérêt compatible avec la réalité économique. On ne peut pas vivre indéfiniment avec des taux d'intérêt négatifs. Là, c'est en Corée que je vais aller. C'est-à-dire que la Banque centrale de Corée a porté son taux d'intérêt à 3,5%. Et elle a dit que, réfléchissant bien, c'était entre 3 et 4% qui était le taux d'intérêt d'équilibre, qu'elle était probablement arrivée au niveau où elle allait arrêter, quelle que soit la situation du niveau général des prix dans le pays. Donc, il y a une action des banques centrales qui n'est pas directement corrélée, même si elle sert de justification, à l'inflation. Le deuxième élément, c'est que l'inflation, on la mesure par rapport au mois correspondant de l'année précédente. Donc là, on mesure l'inflation de décembre 2022 à décembre 2021, janvier 2023. On est avant la guerre d'Ukraine. Quand on regarde au mois par mois, on s'aperçoit que les prix, effectivement, baissent. Et le dernier élément, on a parlé de Tesla, on a parlé des semi-conducteurs. Vous regardez l'indice des prix aux États-Unis, il y a des prix administrés, notamment le prix qui augmente le plus en ce moment, c'est les prix des cantines scolaires, parce qu'ils sont déterminés par des autorités administratives, c'est-à-dire les États. Donc les États font un peu comme la Banque centrale, ils en profitent pour se refaire une santé. Mais ce qui baisse de façon la plus spectaculaire, on l'a dit, c'est les produits informatiques. Et alors qu'il y a encore un an, le commissaire européen, monsieur Thierry Breton, disait on va être en pénurie de semi-conducteurs, là on ne sait pas quoi en faire, et les prix baisse. Donc je pense que l'inflation est durablement maîtrisée et que le véritable enjeu, c'est jusqu'où est-ce que les banques centrales vont estimer qu'elles doivent monter les taux pour trouver une forme de normalité. Et à titre personnel, je pense qu'il faudrait qu'elles arrêtent, que la Banque de Corée a raison, on est arrivé au bon niveau.
Merci Jean-Marc Daniel. Vous êtes bien dans 90 minutes business à partir de 13h. Lorraine Goumeau, 90 minutes business avec vous. Vous répondez aux questions de nos auditeurs.
Oui, ce midi, on va parler de la négociation de salaire. Est-ce que c'est le bon moment de renégocier un salaire et comment le faire? Eh bien, on répond toutes vos questions en direct avec notre expert sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook. Et avant ça, avec vous, Thomas, d'ici une grosse demi-heure vers 12h50.
Midi 50, rendez-vous à tout à l'heure. Lorraine, on marque une pause et dans un instant, on revient avec notre invité pour faire un point d'étape sur l'avancée des négociations commerciales. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
Vous êtes bien dans 90 minutes business. Marine Raffray, bonjour.
Bonjour.
Agroéconomiste à Chambre d'Agriculture France. L'inflation des produits alimentaires a flashé à plus de 12%. Industriels et distributeurs ont débuté dans cette période des négociations commerciales, période de forte tension, on l'a dit. Que faut-il attendre de ces négociations 2023, Marine Raffray? Est-ce qu'on assiste à un round particulièrement tendu?
Alors oui, on est dans un contexte très tendu. On peut rappeler pourquoi. On est dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, bien sûr, électricité, gaz, ça pèse sur les coûts de production des agriculteurs, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. Ça a aussi des effets sur les coûts de fonctionnement de la grande distribution. Vient s'ajouter à cela la hausse du coût du transport, la hausse des prix des matières premières agricoles, des difficultés, des tensions sur la main-d'œuvre aussi, qui fait peser une certaine incertitude sur la chaîne agroalimentaire. Donc oui, ce cycle-là, il fait peser un risque de hausse des prix. Maintenant, on n'est pas encore à même de dire quel sera le point d'atterrissage aujourd'hui, puisque les négociations courent jusqu'au 28 février. Mais en effet, ce contexte en début 2023, eh bien, il faut bien rappeler que les industriels, l'année dernière, en 2022, n'ont pas tous pu répercuter les hausses qu'ils ont connues tout au long de l'année. Donc voilà, on va regarder cela avec attention.
Ça, c'est pour les enjeux. Vous l'avez dit, date butoir, 28 février, 23h59. Certains estiment déjà que le mois de mars sera dans le rouge. On parle notamment d'augmentation de plus 11 à plus 40%, selon Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que c'est viable, une telle inflation, sur les prix? Et est-ce qu'on doit s'attendre à ça, vraiment?
Alors, tout d'abord, les situations sont toujours très hétérogènes, hein, selon qu'il s'agit de PME qui négocient avec des centrales d'achat ou de multinationales. Évidemment, les pouvoirs de négociation ne sont pas les mêmes, donc à l'arrivée, les hausses ne passent pas de la même manière. Mais aussi, il faut bien rappeler que c'est quand même la loi Egalim qui a été passée l'année dernière, hein, Egalim 2, puisqu'il y en avait une première, elle a permis de rouvrir des cycles de négociation un petit peu tout au long de l'année. Donc l'année dernière, on avait pu, dans une certaine mesure, passer des hausses. Alors, plus 40%, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être lié à certains produits. Michel-Édouard Leclerc faisait notamment mention des produits pour l'alimentation des animaux. Voilà, on n'aura pas ça surtout. Et puis, pas depuis, dès le mois de mars, en fait. Parce que les premières facturations, elles n'arrivent pas toutes dès le mois de mars. Donc, les hausses, on va les voir pour le consommateur, peut-être de façon plus échelonnée tout au long de l'année, du moins quand les premières livraisons vont se faire.
La loi Egalim semble inefficace aujourd'hui, parfois en tout cas déséquilibrée peut-être. Et pour donner plus de poids aux acteurs de ces négociations, cette proposition de loi dont on a parlé cette semaine sur BFM Business, qui souhaite donner plus de poids dans les rapports entre distribution et industriels, le député Renaissance Frédéric Descrozailles, plus de poids aux industriels, notamment limiter les promotions, augmenter le seuil de vente à perte. Est-ce que tout cela ne va pas contribuer à augmenter l'inflation ?
Ces deux dispositions, donc la limitation des promotions et également la hausse du seuil de revente à perte, elles sont à l'œuvre depuis la première loi Egalim qui a été votée en 2018. Donc 2019, 2020, 2021, 2022, cette disposition était déjà à l'œuvre. Maintenant, leur effet sur les prix pour les consommateurs, on est assez en peine de dire si cette loi a eu de vrais effets. Parce que, bon, déjà, là, on est dans un contexte inflationniste, bien au-delà de ces dispositions. Hein. Mais on est en attente d'évaluation de ces mesures. Alors là, il est proposé de les prolonger pour, il me semble, 3 ans. Mais d'ores et déjà, il faudrait quand même que l'on sache quels effets et quels fruits elles ont portés. Et puis, où sont passées les éventuelles hausses de prix pour les consommateurs ? Qui en a profité ? Puisque l'objectif initial, c'était quand même que ça aille au maillon de la production.
Répartir la valeur.
Exactement.
Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on oublie un peu trop le consommateur, justement, dans toutes ces lois ? Parce que le but ultime, c'est quand même lui. On ne produit pas pour le plaisir de produire, on produit pour des consommateurs. Et en particulier, mais vous nous dites le prix de l'énergie, mais on est en train de dire en ce moment aux consommateurs que le prix de l'électricité s'est effondré depuis le mois d'août, qu'on ne sait pas quoi faire du gaz, que le prix du gaz est revenu à un niveau qui était antérieur. Et on lui dit simultanément, il va falloir que vous payiez plus cher parce que le prix de l'énergie pénalise la production. Vous ne croyez pas qu'on l'oublie un peu, le consommateur, dans tout ça ?
Marine Raffray ?
Il y a eu de nombreuses dispositions législatives ces dernières années. Elles s'accélèrent, puisque là, on en est peut-être à la troisième en l'espace de 5 ans, pour atteindre des objectifs qui, parfois, sont un petit peu divergents, c'est-à-dire défendre le pouvoir d'achat des consommateurs, défendre aussi un tissu de l'agroalimentaire qui soit capable d'être compétitif aussi à l'international et puis qui fasse vivre un certain nombre d'emplois. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et puis aussi protéger le maillon de la production parce que en l'espace de 35 ans, on a perdu plus de la moitié des exploitations agricoles. On est aujourd'hui à 416 000 exploitations agricoles dans le dernier recensement. En l'espace de rien que 10 ans, c'est plus d'un tiers des exploitations qui ont disparu. Donc il se passe quand même quelque chose. Et on le voit là sur les tensions aussi sur les produits du type lait ou viande bovine, où on atteint des niveaux de production côté amont, côté agriculteur, qui ont tellement connu de décroissance que, eh bien, on a une incertitude sur est-ce qu'on va pouvoir faire tourner la transformation, est-ce que les rayons seront bien approvisionnés.
On a dit peut-être que pendant longtemps on a fait porter le poids en tout cas sur les exploitations agricoles. Aujourd'hui peut-être que ce poids est reporté sur les consommateurs. On est à quelques jours, une quarantaine de jours maintenant de la fin des négociations. En cas de non-accord, à quel prix seront vendus les produits alimentaires ? Qui a le dernier mot en faveur de qui ?
Actuellement, la loi indique que, en l'absence d'accord, c'est le prix convenu dans l'accord de l'année précédente qui s'applique. Alors, on pourrait dire que le fournisseur peut ne plus avoir intérêt à livrer dans ces conditions parce que ses coûts de fonctionnement font que s'il n'a pas pu répercuter cela dans un nouvel accord, eh bien, il vend finalement à perte. Mais là, pèse un certain risque juridique sur le fournisseur parce qu'il peut se retrouver attaqué devant les tribunaux par son acheteur. Et c'était justement l'un des aspects importants de la proposition du député Descrozailles, d'aller vers un autre système où ce soit le prix proposé par le fournisseur, par l'industriel, qui soit retenu. Alors maintenant, évidemment, ça a fait beaucoup réagir du côté de Laval, hein, de la distribution. Donc cette proposition de loi, elle va être très certainement amendée dans les prochains jours, puisqu'elle va passer dans les rangs de l'Assemblée nationale. Et on peut aussi imaginer que la situation n'est pas la même, encore une fois, que l'on est une PME ou un grand groupe de l'agroalimentaire pour lequel le distributeur veut avoir les produits dans ses rayons.
Merci Marine Raffray d'être venue dans 90 Minutes Business, agroéconomiste à Chambre d'Agriculture France. On suivra bien sûr ce dossier avec vous. Merci. Tout de suite, le top 3 du web.
90 Minutes Business, le top 3 du web.
Avec Pierre Kupferman qui nous a rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On commence avec cet article de Frédéric Bianchi consacré à l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, qui place ses enfants à la tête de son empire.
Oui, Bernard Arnault qui a conforté ces dernières semaines son avance sur les autres multimilliardaires de la planète, puisque selon Forbes, sa fortune tutoie désormais les 205 milliards de dollars, c'est-à-dire 40% de plus que celle d'Elon Musk. Bon, ça n'a rien d'étonnant. On sait que LVMH est au firmament avec une capitalisation record. Je regardais là tout à l'heure plus de 392 milliards d'euros. Le géant français du luxe figure désormais dans le top 15 des plus grosses entreprises cotées dans le monde. Et c'est dans ce contexte que donc Bernard Arnault prépare la suite. Bon, tous ses enfants se sont vus confier des postes clés dans le groupe. Et donc on va voir avec Jean-Marc s'il a bien suivi toutes les dernières annonces. Donc on commence par l'aînée de la fratrie, Delphine, 47 ans. Je vous propose à chaque fois deux réponses possibles. Présidente de Louis Vuitton ou présidente de Christian Dior
Couture. Christian Dior.
Bravo. Antoine, 45 ans. Présidente de Christian Dior. SE, la holding qui contrôle la LVMH ou présidente de Louis Vuitton?
Louis Vuitton.
Non. C'est Christian Dior, SE, la holding qui contrôle la LVMH.
Ah oui.
Alexandre, 30 ans. Président ou vice-président exécutif, c'est le titre qui change, de Tiffany.
Il doit être vice-président exécutif de Tiffany.
Bravo. Frédéric, 28 ans. Patron de Rimowa ou de Tag Heuer?
Je pense qu'il doit être patron de Tag Heuer.
Bravo. On finit avec Jean, 25 ans, qui a été nommé directeur du marketing et du développement d'une division. Mais laquelle? Les montres de Louis Vuitton ou les champagnes de Moët&Cy?
Je crois que c'est les champagnes qu'il a récupérées.
Non, les montres de Louis Vuitton.
Oui.
Bon allez, c'est pas mal. Hein.
On était à ça du tableau d'honneur.
Non, ce qui est intéressant, c'est quand même que la hausse de l'euro va encore accentuer la distance entre Elon Musk et Bernard Arnault.
On continue avec cette question, Pierre. Dans 6 jours, grosse grève prévue, on continue. Et cette question, pourquoi est-ce que c'est le jeudi, ces journées de grève, habituellement?
Alors tiens, Jean-Marc, vous connaissez la réponse ou pas?
Non, je pense que c'est pas parce que c'est la semaine du 4 jeudi qui était le symbole de l'oisiveté autrefois.
C'est... Non, non. Alors, c'est un choix par défaut, en fait. Hein, on fait pas la grève les jours de repos, donc on oublie le samedi et le dimanche.
Dimanche.
Le lundi et le vendredi sont également écartés à cause des week-ends prolongés grâce au RTT. Et en plus, le lundi, c'est quand même le jour des réunions, pas seulement dans les entreprises, mais aussi au sein des syndicats.
Et le mercredi, c'est le jour des enfants.
Exactement. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, il reste quoi? Il reste le mardi jeudi. Ou le jeudi. Comme en plus, il y a une veillée d'armes avant une manifestation, avec par exemple des réflexions sur le service d'ordre à mettre en place, mais finalement c'est le jeudi qui s'impose souvent par rapport au mardi.
On finit avec cet article consacré à ces Français qui n'arrivent pas à vendre leurs biens immobiliers.
Oui, entre les hausses de taux qui limitent le budget des acquéreurs, le taux de l'usure, on en a parlé, hein, qui empêche les ménages aisés parfois de financer leurs achats à partir du moment où ils sont âgés, hein, c'est tout le problème de l'âge qui vous élimine à cause du taux d'usure. Et puis ces vendeurs qui n'ont pas du tout, mais alors du tout envie de brader leurs biens, ben on voit que le marché immobilier commence à montrer des signes de blocage et que sont notamment concernés les passoires thermiques avec des propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux d'isolation nécessaires, mais qui en même temps refusent de défalquer le coût de ces travaux sur le prix de vente de leurs biens. Et puis plus largement, vous avez finalement tous les délais qui s'allongent pour les biens les moins recherchés. C'est ce qu'on observe évidemment quand le marché se retourne. Donc c'est quoi? Bah, les appartements avec défaut, les rez-de-chaussée qui donnent sur la rue et tous les appartements qui sont exposés plein nord.
Et qui donnent donc du stock. Merci Pierre Kupferman pour le top 3 du web. Restez avec nous dans 90 minutes business. Dans un instant, notre débat. Quel est le bien fondé de l'ouverture à la concurrence des transports en commun? Juste avant ça, le rappel des titres avec Nathan Cocampo. À tout de suite.
90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
Tous les week-ends sur BFM Business, Fabien Guez accueille professionnels de santé, chercheurs, patrons de start-up pour analyser et débattre de toutes les innovations santé. Économie, éthique, news, découverte, un bilan complet du secteur médical. Check-up Santé, présenté par Fabien Guez, samedi à 14h et dimanche à 15h sur BFM Business. BFM Business, l'info éco.
L'inflation en France confirmée à 5,9% en décembre contre 6,2% en novembre. Aux États-Unis, l'inflation ralentit à 6,5%, son plus bas niveau depuis octobre 2021. Et si les marchés semblent optimistes, la patronne du FMI, elle, est inquiète. Elle redoute même l'année 2023. Selon elle, elle pourrait être marquée par des tensions sociales partout sur la planète, alors que l'effet du resserrement monétaire sur l'emploi est, selon elle, encore à venir. Ce midi, Emmanuel Macron reçoit à déjeuner les patrons des grands groupes industriels français. Ils discuteront de la riposte européenne face au protectionnisme américain, l'Inflation Reduction Act. Objectif, anticiper les turbulences économiques des prochains mois. L'économie allemande a ralenti en 2022, mais fait mieux qu'attendu. Hausse du PIB de 1,9% malgré la crise énergétique qui plombe l'activité. Et dans la zone euro, la production industrielle a augmenté plus que prévu en novembre. Hausse de 1% contre 0,5% attendu initialement. Un mot des exportations chinoises. Elles sont en déclin en décembre, avec le repli de la demande mondiale. Moins 10% sur un an, le pire recul depuis février 2020. TSMC coupe dans ses investissements face à la faible demande de puces. Le géant taïwanais, principal fournisseur d'Apple et de bien d'autres, s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Une illustration du ralentissement marqué du secteur technologique. TSMC prévoit toutefois un retour de la croissance au second semestre. La société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du Marché, ex Tout-Par-Gel, est placée en liquidation judiciaire, entraînant la suppression de 1900 emplois. L'entreprise était en redressement judiciaire depuis octobre. Et puis un important investissement américain en France dans l'hydrogène. Le chimiste Chemours, issu d'une scission du groupe Dupont, mise 200 millions d'euros dans une usine fabriquant les membranes d'électrolyseurs nécessaires à la production de l'hydrogène décarboné. Une usine qui sera implantée près de Creil, dans l'Oise. Un mot des marchés, le CAC est en hausse de 0,44% au-dessus des 7000 points, 7006 points.
Merci Nathan.
BFM Business, l'info éco.
L'inflation en France confirmée à 5,9% en décembre contre 6,2% en novembre. Aux États-Unis, l'inflation ralentit à 6,5%, son plus bas niveau depuis octobre 2021. Et si les marchés semblent optimistes, la patronne du FMI, elle, est inquiète. Elle redoute même l'année 2023. Selon elle, elle pourrait être marquée par des tensions sociales partout sur la planète, alors que l'effet du resserrement monétaire sur l'emploi est, selon elle, encore à venir. Ce midi, Emmanuel Macron reçoit à déjeuner les patrons des grands groupes industriels français. Ils discuteront de la riposte européenne face au protectionnisme américain, l'Inflation Reduction Act. Objectif, anticiper les turbulences économiques des prochains mois. L'économie allemande a ralenti en 2022, mais fait mieux qu'attendu. Hausse du PIB de 1,9% malgré la crise énergétique qui plombe l'activité. Et dans la zone euro, la production industrielle a augmenté plus que prévu en novembre. Hausse de 1% contre 0,5% attendu initialement. Un mot des exportations chinoises. Elles sont en déclin en décembre, avec le repli de la demande mondiale. Moins 10% sur un an, le pire recul depuis février 2020. TSMC coupe dans ses investissements face à la faible demande de puces. Le géant taïwanais, principal fournisseur d'Apple et de bien d'autres, s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Une illustration du ralentissement marqué du secteur technologique. TSMC prévoit toutefois un retour de la croissance au second semestre. La société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du Marché, ex Tout-Par-Gel, est placée en liquidation judiciaire, entraînant la suppression de 1900 emplois. L'entreprise était en redressement judiciaire depuis octobre. Et puis un important investissement américain en France dans l'hydrogène. Le chimiste Chemours, issu d'une scission du groupe Dupont, mise 200 millions d'euros dans une usine fabriquant les membranes d'électrolyseurs nécessaires à la production de l'hydrogène décarboné. Une usine qui sera implantée près de Creil, dans l'Oise. Un mot des marchés, le CAC est en hausse de 0,44% au-dessus des 7000 points, 7006 points.
Merci Nathan.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
À 12h32 sur BFM Business, on fait un petit point avec Antoine Larigauderie à Euronext. Antoine, les marchés sont sur une très bonne dynamique avec la publication ce matin de l'inflation américaine et l'inflation française.
Oui, absolument. Et la question sur les marchés qu'on se pose depuis ce début de semaine, question à 8,8%, puisque c'est ce que gagne le CAC 40 depuis le début de l'année, ou à 7000 points, comme il y est en ce moment, c'est de savoir si les marchés, en fait, n'achètent pas à crédit une économie mondiale qui est en train de récupérer de sa très très mauvaise passe, évidemment, de l'année dernière. Alors la question, elle reste un petit peu entière. On a d'un côté des analystes qui s'inquiètent d'une certaine forme de complaisance. On a des analystes de BlackRock, notamment, qui disent attention, il risque d'y avoir des chaos et des soubresauts sur cette année 2023. Certes, les pressions inflationnistes ont tendance à se réduire, mais il reste énormément de questionnements. Le rythme de la normalisation de la politique monétaire de beaucoup de banques centrales, que va devenir la Chine? Là, il y a une grosse inconnue, compte tenu du rythme de sa croissance économique et des risques impliqués par la nouvelle vague de Covid. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir, comme chez TSMC, là, en ce moment, des pans entiers de l'industrie avoir du mal à redémarrer? Et puis, on a d'un autre côté, d'autres comme Marc Fiorentino, par exemple, ce matin, qui disait il faut voir un petit peu tout ce qu'on a perdu l'année dernière en termes de valorisation. Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin justement à ce moment-là? Est-ce qu'on n'est pas justement d'assister à une forme de normalisation aussi sur les cours de bourse? Donc là, il y a un vrai débat qui est en train de naître entre deux tenants de marché. La réponse, elle est à prendre, elle est véritablement à prendre maintenant. C'est-à-dire que c'est le moment de mettre des billes si on veut investir, parce qu'on est sans doute à l'aube d'un moment charnière pour l'ensemble de l'économie mondiale, même s'il reste énormément de risques et que le chemin risque d'être semé d'embûches pendant encore de très longs mois.
Merci Antoine Larigauderie. Vous restez avec nous. Le débat dans un instant. Marc Ivaldi et Arnaud Aimé nous ont rejoints pour discuter de l'état des transports en Ile-de-France. On se retrouve juste après ça.
90 minutes business, le débat.
Vous êtes sur 90 minutes business, première partie de notre débat. Un mot sur l'inflation américaine et française à la baisse. Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Arnaud Aimé, Marc Ivaldi nous a rejoint également en distanciel. Bonjour à tous. Antoine Larigauderie nous le disait, on a quand même le sentiment que les marchés spéculent un petit peu sur cette inflation qui est à la baisse. Est-ce que cet enthousiasme n'est pas un peu trop tôt? Est-ce que c'est de bon augure, Jean-Marc Daniel?
Écoutez, non, je pense pas que ce soit trop tôt. C'est ce que je disais dans mon édito. Et on le voit encore une fois, il y a tout un tas de prix industriels qui vont baisser. Il y a même aux États-Unis, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des prix alimentaires qui baissent. Le prix de la viande a considérablement baissé. Et donc, mécaniquement, quand on atteindra le mois de mars, qui est la référence en termes de calcul d'inflation, on aura derrière nous la hausse de prix liée à l'attaque de l'Ukraine, et donc il va y avoir, non pas que les prix vont baisser, beaucoup de prix vont se stabiliser, ils ont atteint un certain niveau, ils vont rester à ce niveau, et quelques prix vont baisser. Quand vous regardez d'abord le dernier papier du FMI, il dit bien qu'en fait le véritable enjeu c'est plutôt les taux d'intérêt que l'inflation en tant que telle, parce qu'il y a un certain nombre de pays dont les finances publiques, dont la dette extérieure va devenir insoutenable. Et le deuxième enjeu, vous avez des papiers qui apparaissent dans la presse, dans les travaux de recherche aux États-Unis, qui disent la menace à l'heure actuelle, c'est la déflation. La baisse des prix, et on va avoir des baisses de prix et des menaces de déflation dès la fin de cette année. Donc je pense que les marchés sont plutôt, pour une fois, dans le bon sens.
Les marchés enthousiastes, a raison, Pierre Kupferman?
Je partage totalement ce que nous dit Jean-Marc. Et quand on regarde d'ailleurs très en détail le dernier relevé de l'inflation par l'INSEE, c'est très intéressant de regarder très en détail, vous avez déjà des produits qui coûtent aujourd'hui moins cher qu'ils ne coûtaient il y a un an. Tout ce qui est téléviseur, tout ce qui est ordinateur. Et donc, il y a un phénomène qui va s'amplifier avec les mois à venir.
Tassement des prix, donc 5,9% en France, selon les chiffres définitifs de l'INSEE, 6,5% outre-Atlantique. La deuxième partie de notre débat porte sur cette réunion qui a lieu aujourd'hui. Une audition des exploitants des transports en région Île-de-France, RATP, SNCF, Keolis, Transdev, sont convoqués par Île-de-France Mobilité en vue de l'ouverture à la concurrence. Pour en discuter avec nous, Arnaud Aimé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes senior partners transport, manufacturing, retail chez SIA Partners. Et Marc Ivaldi, à distance, professeur d'économie à Toulouse Business School, président de l'Association française d'économie des transports. Bonjour.
Bonjour.
Quel est le bien fondé de l'ouverture à la concurrence des transports en commun en Île-de-France, Marc Ivaldi?
Le bien fondé, c'est que ça coûte très cher et qu'on voudrait que les ça coûte moins cher. Donc c'est la principale raison de cette ouverture.
Politique.
Il y a des investissements à faire et pour le moment, clairement, on a l'impression que le coût de gestion du transport public en France et en particulier en Île-de-France est trop élevé.
Trop élevé. On parle d'une ouverture à la concurrence à partir de 2025 pour les bus, à horizon 2040 pour le reste des transports historiques. Sachant que les conducteurs de la RATP vont être particulièrement sollicités en 2024 avec les Jeux Olympiques, 10 millions de spectateurs qui vont venir ici dans la capitale, au moment même où on leur annoncera qu'ils vont quitter le giron de la régie publique pour rejoindre Transdev ou Keolis, les deux principaux concurrents. Est-ce qu'ils seront toujours aussi motivés? Est-ce que ça tombe bien, Arnaud Aimé?
Alors, ça crée une complexité de calendrier, c'est sûr. C'est dommage qu'on s'en rende compte que maintenant, parce que le calendrier de libéralisation du transport public en Île-de-France, il est connu depuis une dizaine d'années. L'attribution des JO, c'est depuis 2018. Donc, ça fait depuis 2018 qu'on sait qu'en 2024, il y aura une certaine complexité. Tout ça aussi parce qu'on n'a pas... les pouvoirs publics ont voulu s'y prendre plutôt en dernière minute, comme d'habitude. C'est l'histoire des calendriers de libéralisation. Juste pour revenir sur le point d'avant et pour compléter ce qui était dit, le transport public, c'est un service public, c'est-à-dire que c'est subventionné, en l'occurrence, par la région et les collectivités locales. Mais un service public n'est pas nécessairement délivré par une entreprise publique en monopole. Là, on libéralise parce qu'on considère qu'il existe des systèmes de délégation de services publics qui existent depuis des dizaines d'années dans le transport urbain, mais aussi en France, dans l'eau, dans les déchets, etc., et pour lesquels la France est plutôt championne du monde. C'est pour ça qu'on libéralise aujourd'hui. On considère que le service public peut être délivré par une entreprise de statut privé.
Jean-Marc Daniel, est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand on voit l'énergie nécessaire pour organiser la transition, les risques de désorganisation que ça fait courir?
Oui, je crois que sur le plan théorique, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que normalement, la concurrence, ça effectivement, ça réduit les coûts. C'est ce que on vient de dire. Alors après, il y a deux façons de procéder. Il y a une façon qui consiste à concéder le service public à une entreprise privée et de faire en sorte que le jeu de la concurrence joue au moment de l'appel d'offres. C'est un peu ce qui se passe normalement quand vous avez une économie de réseau. Et je rappelle quand même que l'autre grand réseau de transport public en France, qui est celui de la région lyonnaise, a été concédé, les TCL maintenant. Alors, c'est une filiale de Keolis qui est la SNCF, donc on pourrait dire c'est public, mais c'est la filiale de Keolis qui est elle-même une filiale inscrite dans le fonctionnement au sein de la SNCF, dans une logique privée. Elle gère des transports aux États-Unis, elle gère des transports au niveau mondial suivant une logique privée. Donc il y a un problème de savoir quel est le statut de l'entreprise et ensuite, est-ce qu'il y a des endroits où on peut mettre plusieurs entreprises en concurrence? Alors, historiquement, quand même, quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que la Compagnie Générale des Omnibus, qui était le noyau de ce qui est devenu la RATP, gérait certaines lignes, mais pas toutes les lignes de bus. Il y avait des lignes de bus. Et même dans le métro, j'invite les usagers à regarder le design des stations de métro, celles qui étaient dans la compagnie qu'on appelait Nord-Sud, que la RATP est en train de réhabiliter en faisant réapparaître tout le mobilier urbain qu'il y avait à l'époque, n'ont pas exactement le même design et la même présentation que celles qui étaient dans la CMP, la compagnie du chemin de fer métropolitain parisien. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on garde le statut public et est-ce qu'on met des choses en concurrence ou est-ce qu'on se dit on va abandonner les statuts publics, permettre à un monopole privé, mais sous condition de cahier des charges, de gérer l'ensemble, ou est-ce qu'on multiplie les opérateurs? Je pense que les deux sont à mener en parallèle.
On constate tout de même que depuis les confinements, les salariés se sont interrogés sur les travaux de nuit, les horaires décalés, la compatibilité avec leur vie personnelle. On voit bien qu'il y a beaucoup de démissions aujourd'hui, d'absentéisme, des grèves parfois, et puis une pénurie aujourd'hui de personnel avec des recrutements qui ont été mal anticipés. Dans ce contexte, il paraît quand même difficile de croire que l'ouverture à la concurrence permettra de conserver certains avantages, certains acquis par les salariés.
C'est absolument une évidence quand on écoute ce que dit la...
Et donc de motiver.
Exactement. Ce que dit la CGT, c'est que globalement, l'objectif, et on l'a dit, c'est de baisser les coûts de production. Or, dans les coûts de production, c'est 70%, c'est la masse salariale. Donc si vous voulez réduire les coûts de production, que vous le vouliez ou non, il ne s'agit pas de réduire les salaires, mais il s'agit de faire en sorte que ceux qui conduisent les bus, puisqu'on parle d'eux, passe plus de temps à conduire les bus. Il n'y a pas 50 solutions. Et donc, d'ailleurs, la RATP a commencé à le faire puisque elle a présenté au syndicat le mois dernier un accord qui prévoit la suppression de 6 jours de repos par an et l'augmentation du temps de travail d'une heure par jour avec des compensations salariales derrière, bien évidemment. Donc, vous voyez bien que l'enjeu, c'est quand même de faire travailler davantage les chauffeurs. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'on trouve un bon deal pour les faire travailler davantage avec des compensations salariales suffisantes pour les... que ce soit attractif ou pas.
Marc Ivaldi, le retour d'expérience...
Je suis d'accord avec ce point. Je crois pas qu'il s'agit de les faire travailler plus. Je pense qu'il s'agit de leur donner des incitations à faire mieux, à pouvoir mieux faire leur travail. Il est vrai que les coûts... dans les coûts, la masse salariale représente 70%, mais la gouvernance représente les 30 autres %. Et le problème, vient plutôt de là. Et cette gouvernance, elle est liée au type de contrat qu'on va signer et des incitations qu'on va donner pour que l'encadrement joue mieux son travail. Il est certain que l'efficacité de façon très concrète, l'efficacité d'un réseau urbain dépend énormément du conducteur du bus. La façon dont il va gérer la montée et la descente des gens dans le bus ont des impacts considérables. Ça paraît anecdotique, mais je peux vous assurer que c'est là le point. Donc c'est plus un problème d'incitation que l'augmentation du temps de travail. Je rappelle quand même, pour compléter d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Marc, les concessions et la gestion du transport public dans toutes les villes de France, elle est faite de cette manière. Ça fait très longtemps qu'on a ouvert à la concurrence le service de transport public dans les autres villes.
C'est ça que je voulais vous demander, le retour d'expérience qu'on a de ces marchés qui ont déjà été ouverts à la concurrence, il y a autant d'échecs que de réussites ?
Écoutez, ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, si on prend des expériences comme l'Allemagne et l'Angleterre, parce que ce sont des bons benchmarks pour la France, on s'aperçoit quand même que les coûts ont considérablement baissé en Allemagne, ce qui veut dire que les autorités ont besoin de moins donner de subventions, ou même si elles n'en donnent plus, ça veut dire que les subventions peuvent être utilisées pour faire de nouveaux investissements. Et donc, on rentre dans une boucle qui devient beaucoup plus positive, et on arrête ce problème de catastrophe qu'on est en train de voir à Paris, où on n'arrive plus à gérer la situation.
Je vous vois acquiescer, Arnaud Aimé.
C'est parfois, pas toujours non plus. Je pense que ce sur quoi Marc insiste, c'est important, c'est-à-dire il parle de qualité de service qui est délivrée, notamment en fonction de la posture des conducteurs de bus. Ce que cherchent les autorités organisatrices, c'est-à-dire en l'occurrence le conseil régional, c'est pas seulement une baisse des coûts, et c'est même pas ça leur enjeu principal. C'est pas là-dessus qu'on se fait élire dans un programme électoral d'ailleurs. C'est plutôt l'augmentation de la qualité de service et de la satisfaction des voyageurs. Les voyageurs, ils payent pas beaucoup par rapport à ce que ça coûte vraiment. Le Pass Navigo ne représente qu'une petite portion, un petit tiers de ce que ça coûte vraiment. 38%. Par contre, c'est les voyageurs qui votent.
38%.
Qui est un maximum selon la formule. Mais en France, de manière générale, les voyageurs payent une part faible de ce que ça coûte vraiment par rapport à ce que c'est à la
transition. Pour aller plus loin sur ce retour d'expérience, on jette un œil sur le monde avec Analisa. Analisa, pour mieux comprendre, on va aller voir ce qui se fait ailleurs en Europe. Finalement, les transports parisiens ne sont pas si chers.
Et non, loin de là, après l'augmentation du forfait pour les transports franciliens, Paris reste la ville pas la plus chère en Europe finalement en termes de transport. Vous le voyez, Londres est bien plus chère. Un abonnement peut coûter plus de 400 €. Tout en bas du classement, il y a Rome, dans la capitale italienne. Un abonnement coûte seulement 35 euros par mois. Il faut quand même mettre en relation ces prix avec la qualité du service proposé aux usagers et notamment avec l'ampleur du réseau. À Paris, il y a presque 17 stations et arrêts par kilomètre carré, ce qui en fait la ville d'Europe avec le réseau le plus dense. Juste après, il y a Lisbonne, Londres et Barcelone. Et il y a une autre ville française qui s'en sort très bien dans ce classement, c'est Lyon, avec 10 arrêts et stations par kilomètre carré.
Annalisa Capellini, il y a même des pays pour encourager l'utilisation des transports en commun et qui testent d'autres modèles.
Oui, tout à fait. Le Luxembourg, par exemple, est le seul pays au monde à proposer la gratuité totale des transports en commun sur l'ensemble de son territoire national. Il s'agit des trams, des trains et des bus. Une mesure qui pèse 41 millions d'euros par an sur le budget de l'État. Un coût qui va même augmenter en 2023. Une augmentation de 16% est prévue selon le budget. Le gouvernement luxembourgeois a pris cette décision pour promouvoir les mobilités douces et encourager les citoyens à abandonner leur voiture.
Merci Annalisa Capellini. Messieurs, un mot sur les tarifs du Pass Navigo qui ont augmenté, le service en Ile-de-France qui s'est fortement dégradé et les grandes entreprises qui sont étonnamment silencieuses alors qu'elles payent de facto 50% de l'abonnement de leurs salariés, donc financent les transports, qu'elles pâtissent des retards chroniques de leurs salariés. Quelle est leur marge de manœuvre? Pourquoi ne réclament pas-elles plus de comptes à Ile-de-France Mobilité? On a vu récemment l'entreprise Legrand qui a fait un coup de pression sur la SNCF pour réclamer le rétablissement d'une ligne et d'un train entre Limoges et Paris. Pourquoi, selon vous, Marc-Yves Aldi, Arnaud Aimé, elle...
Je pense que les entreprises franciliennes, elles sont quand même globalement contentes. C'est-à-dire qu'avec un réseau de transport qui est très dense, ça permet aux entreprises d'avoir accès à un bassin d'emploi très important. Les entreprises franciliennes recrutent plus facilement que des entreprises en province parce que elles ont jusqu'à, alors il y a 10 millions d'habitants, il y a un peu moins d'actifs, mais tous ces gens-là, grâce au réseau de transport qui parfois dysfonctionne, peuvent aller rejoindre les points névralgiques. Donc les entreprises ont accès à beaucoup de salariés possibles et il y a beaucoup d'entreprises dans les régions qui jalousent plutôt ça. Alors c'est vrai que les entreprises elles payent plutôt cher. D'une part, il y a les 50% pour rembourser le pass Navigo de l'employé. Elle paye aussi ce qu'on appelle un versement mobilité. Avant, ça s'appelait un versement transport, mais qui est plafonné de par la loi. Et d'ailleurs, le Conseil régional d'Île-de-France demande à déplafonner ça. Mais globalement, elles sont quand même satisfaites. Il y a des problèmes rencontrés aujourd'hui, mais les entreprises aussi, elles peuvent avoir une part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que le télétravail est mal équilibré en France. Les jours sont mal répartis. Les horaires de travail sont mal répartis aussi. Donc il y a des hyperpointes pour lesquelles c'est compliqué pour tout le monde. Les entreprises en s'organisant différemment peuvent aussi simplifier la vie de leurs salariés.
Merci Arnaud Aimé, merci Marc Ivaldi d'avoir été avec nous pour ce débat. Arnaud Aimé, partenaire senior chez SIA Partners, à Marc Ivaldi, président de l'Association française d'économie des transports, professeur à Toulouse Business School. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes toujours sur 90 Minutes Business. On retrouve Lorraine Goumeau tout de suite.
90 Minutes Business avec vous, la libre antenne de l'économie.
La libre antenne de l'économie, Lorraine Goumeau, on évoque aujourd'hui avec vos experts l'augmentation des salaires.
En tout cas, la possibilité de l'augmentation de salaire, c'est Arthur Duménil qui est associé chez Calvon Partners, qui est notre expert du midi. Bonjour Arthur.
Bonjour Lorraine.
Vous avez comme mission de nous donner envie de regarder la suite de notre discussion sur YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook d'ici 15 grosses minutes autour de ce sujet de est-ce que c'est le bon moment de renégocier son salaire entre l'inflation, les pénuries de candidats. Qu'est-ce que le chasseur de tête que vous êtes peut recommander à nos auditeurs?
C'est vrai que surtout la pénurie de candidats a un double impact, c'est de plus en plus compliqué de recruter. Donc les potentiels employeurs auront tout intérêt à éventuellement être plus généreux en termes d'offres salariales, mais c'est aussi en termes de rétention de talents et d'employés où il y a une certaine pression aussi. Donc ce qu'on nous on a pu observer dans notre univers, hein, c'est-à-dire les cabinets de conseil, les grandes banques, notamment les grandes banques françaises, où vous avez eu une augmentation de salaire de 25 à 30% en fonction de certaines équipes, ce qui pousse justement en fait les salariés, ou du moins les bons profils, à parfois faire des va-et-vient entre les différentes structures. Donc oui, on va dire que c'est un bon moment en ce moment.
Beaucoup de porosité, on a beaucoup parlé de la grande démission avec la rentrée. Là, on a plutôt l'impression que ça va être la grande mobilité.
Oui, effectivement. Bah, en plus, là, on arrive en février-mars. Donc, dans ces univers-là, il y a souvent une période de mercato où il y a beaucoup de mouvements. Les gens font beaucoup chasser en ce moment. Donc, oui, c'est un bon moment. Et effectivement, bah, très souvent, malheureusement, parfois, pour avoir une belle augmentation, il faut souvent aller voir ailleurs.
Voilà, alors est-ce que c'est le bon moment pour renégocier son salaire? Ce sera une question à laquelle on répondra tout à l'heure. Aussi, on donnera quelques conseils pour les jeunes salariés qui négocient peut-être leur premier salaire. Si vous êtes une femme, vous avez l'impression d'avoir un plafond de verre, eh bien, Arthur Duménil vous donnera ses bons conseils. Ça se passe dès 13h15 en direct sur tous nos réseaux. Et puis avant ça, Thomas, vous savez, on recrute. On est avec deux entreprises du secteur de la tech qui recrutent et ça se passe à partir de 13h.
Nos recruteurs, nos auditeurs sont friands. À tout de suite, Lorraine, Libre Antenne avec vous dans un instant. On est ensemble jusqu'à 13h30 sur BFM Business. À tout de suite.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.